Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Crémis et Québec Science. Au programme, faire partie du monde, favoriser le bien-être par les rituels alimentaires. Et pourquoi subit-on des petits chocs électriques quand on touche à certains objets, certains jours? Bonne écoute.
Faire partie du monde, favoriser le bien-être par les rituels alimentaires. Un texte de François Régimbal, paru à l'automne 2022 dans la revue Crumi. L'auteur est professeur en sociologie au Cégep du Vieux-Montréal et chercheur pour le collectif en sécurité alimentaire du réseau Ville et Région Laboratoire. Un réfrigérateur rempli ne suffit pas à assurer le bien-être alimentaire d'une personne. Les défis alimentaires ne se réduisent pas au seul accès aux aliments et s'associent à d'autres enjeux, par exemple à un réseau social déficient, comme l'énonce cette femme de 75 ans vivant seule dans un complexe d'habitation. Si je file pas une journée, quand même que j'aurai de la bouffe dans mon frigidaire, si je ne peux pas descendre en bas, pouvoir parler avec le monde, ça m'aide pas beaucoup. Cet article présente une synthèse de ma thèse de doctorat intitulée « Faire partie du monde », une sociologie des rituels alimentaires. Le cas de personnes participant à des organismes d'aide alimentaire à Montréal. Le questionnement qui nourrit cette recherche est né de deux constats. Premièrement, dans les écrits spécialisés, notamment en santé publique et en nutrition, on aborde habituellement les défis alimentaires en termes d'insécurité alimentaire, une expression qui traduit l'accès difficile de certaines populations à des aliments de bonne qualité, et ce, en quantité suffisante. Le deuxième constat est que ce regard plutôt réducteur invite à penser des solutions simplifiées, reposant essentiellement sur le principe de la charité. Alors que celle-ci procure une réponse partielle à l'insécurité alimentaire, elle génère par la même occasion divers effets pervers, notamment celui déshumanisant de réduire l'identité des personnes bénéficiaires à l'état de « bouche à nourrir ». Mentionnons aussi le sentiment de honte ou de gêne que peuvent ressentir les personnes et le fait que la charité les place dans un rapport à sens unique, c'est-à-dire sans réciprocité. En somme, cette recherche suggère que l'apport nutritionnel ne suffit pas à expliquer les comportements alimentaires du quotidien et les défis qui y sont associés, et que ceux-ci s'insèrent dans un ensemble complexe de facteurs sociaux, culturels et économiques. Ainsi, une meilleure compréhension des défis alimentaires auxquels sont confrontées différentes populations nécessite de porter un regard global sur le rapport qu'entretiennent les individus avec leur alimentation. Afin d'y parvenir, la notion de bien-être, dépassant le cadre de l'insécurité alimentaire, est apparue capable de fournir une vision d'ensemble des défis en question. Démarche d'enquête. L'ensemble des personnes rencontrées fréquentent un ou des organismes communautaires en alimentation mettant de l'avant des « pratiques alternatives », c'est-à-dire qui reconnaissent les individus dans leur globalité comme des personnes à part entière en opposition aux pratiques fondées sur la réduction identitaire auxquelles se rattache la charité. La collecte de données pour cette recherche s'est déployée en trois étapes. Tout d'abord, 7 entrevues ont été réalisées auprès d'organisateurs et organisatrices communautaires d'un CIUS montréalais. Cette étape a permis de cibler 8 organismes d'aide alimentaire dits « alternatifs » au sens où une rupture avec la charité est proposée. Par la suite, 9 entrevues auprès de responsables des organismes ciblés ont été réalisées afin de connaître leur vision des défis alimentaires que doivent surmonter les usagers et usagères et d'en apprendre davantage sur leurs pratiques d'intervention. En fin d'entretien, il leur était demandé de nous présenter des participants et participantes au programme de leurs organismes. Cette troisième étape a permis d'interviewer 33 personnes âgées de 55 à 91 ans, dont 22 femmes et 11 hommes. Selon certains écrits, la population des personnes aînées est plus susceptible que d'autres de fréquenter des organismes d'aide alimentaire. C'est ce qui nous a conduit à nous intéresser à cette population. Le bien-être en 5 dimensions. Des chercheurs proposent une approche globale, plutôt qu'individuelle, du bien-être, à travers 5 dimensions sociales : corporelle, santé physique et mentale, matérielle, avoir des conditions de vie adéquates, relationnelle, être bien dans ses rapports avec autrui, décisionnelle, être capable de prendre ses propres décisions, et temporelle, maintenir ses habitudes et routines, qui se situent toutes au carrefour de multiples inégalités sociales. À l'instar de l'un de ces chercheurs, pour qui le point de départ pour comprendre le bien-être doit s'ancrer dans la parole des personnes, nous cherchons ici à mettre en valeur les propos des personnes interviewées lorsqu'elles racontent leur rapport à l'alimentation. La mise en valeur des propos des participants et participantes permet également de mieux comprendre les motifs pour lesquels ils et elles fréquentent un organisme alternatif en alimentation. Les dimensions relationnelles, matérielles et temporelles, à travers les rituels alimentaires, ont ainsi émergé comme des dimensions centrales du bien-être alimentaire des personnes. C'est donc sur celles-ci que nous nous attarderons. Vous écoutez « Faire partie du monde », favoriser le bien-être par les rituels alimentaires, un texte de François Régimbal, paru à l'automne 2022 dans la revue Crémi. Solitude subie. Les personnes rencontrées ont souligné à maintes reprises vivre un mal-être alimentaire, qu'elles associent à un quotidien imprégné par la solitude. Par exemple, un homme de 67 ans nous a confié que, depuis le début de sa retraite, il est entré dans un autre monde, un monde sans compagnon. Dans le même sens, nombreuses ont été les personnes à faire un lien entre la retraite, un effritement de leur réseau social, la solitude et des changements dans leurs habitudes alimentaires. Un homme âgé de 72 ans parle de cette étape en termes de deuil. Le deuil que représente la perte de relation avec ses collègues, mais aussi le deuil d'être actif et de jouer un rôle positif au sein de sa communauté. Comme il le formule, « Oui, il y a des petites choses dans l'appartement puis autour du bloc, mais sinon, c'est une constante qui est là, confrontée à moi-même. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. On s'éloigne avec le temps. Donc, c'est aussi un deuil. » Cette nouvelle phase, caractérisée par une solitude subie, est vécue comme étant vraiment pénible. Un homme de 63 ans et vivant seul a même développé une aversion à la vie diurne qui reflète encore plus sa solitude. Ça me pèse dessus. Pour certaines personnes, l'amorce de la retraite est ainsi venue bouleverser plusieurs aspects de leur vie quotidienne, de l'effritement de leur réseau social à la désorganisation que provoque la fin du travail rémunéré, pouvant générer un sentiment de perte de sens. Ces perturbations s'accompagnent dans certains cas d'une perte de motivation à préparer les repas, voire d'une perte d'appétit. Précarité. L'accès difficile aux aliments vient pour plusieurs personnes se superposer à des conditions de vie caractérisées par la précarité. Une femme de 75 ans traduit bien cette idée lorsqu'elle affirme que l'insécurité alimentaire suit l'insécurité du logement. Il faut payer son logement avant de manger. Ce constat fait écho aux travaux d'un chercheur au sujet de la privation, susceptible de prendre des formes diverses, notamment celle du manque de variété dans le frigidaire. Selon une personne rencontrée âgée de 65 ans, avant qu'elle ne fréquente un organisme, son régime alimentaire se réduisait à manger jour après jour les mêmes aliments comme du riz ou des aliments au rabais, correspondant à ses capacités budgétaires. « Je mangeais quasiment juste du riz frit régulier, parce que c'est peu coûteux et ça bourre. » Aux yeux d'une femme de 75 ans qui fréquente un organisme alternatif en alimentation, il est impossible d'imaginer les préjugés qu'on doit vivre, voix très émotive. Les premiers du mois, ben quand on allait pour échanger notre chèque, ben monsieur, il y avait des fils. Puis là, les gens, j'ai déjà entendu ça, là. Oh, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, c'est la journée des calices de BS. Comme si cette humiliation n'était pas suffisante, un homme raconte que certains organismes d'aide alimentaire fondés sur la charité exige de prouver sa précarité. Cet homme de 59 ans raconte devoir se présenter à la porte de l'église avec un bail puis la carte de l'aide sociale, puis il nous donne un coupon pour aller à nom de l'organisme. Cette exigence au guichet d'entrée peut faire naître un sentiment de honte ou de gêne chez certaines personnes. Comme le dit une participante de 73 ans, il s'agit souvent d'individus habitués à s'arranger eux-mêmes et à un moment donné, bang, tu sais, c'est la gêne, la gêne. L'analyse a également fait ressortir les difficultés des participants et participantes à être autonomes et à vivre selon leurs propres valeurs. En effet, les inégalités de richesse produisent un ensemble d'effets complexes qui peuvent se répercuter dans le quotidien alimentaire des individus. Par exemple, une personne souligne que le recours aux banques alimentaires, qui s'explique en partie par la précarité économique, l'oblige à consommer des produits pas forcément conformes à ses valeurs, notamment ceux qui sont préparés dans le non-respect des producteurs et productrices et de l'environnement. Elle explique ainsi la manière dont les banques alimentaires portent atteinte à sa dignité en lui refusant la possibilité de décider, en toute autonomie, de la composition de son régime alimentaire. Vous écoutez, faire partie du monde, favoriser le bien-être par les rituels alimentaires. Un texte de François Régimbal paru à l'automne 2022 dans la revue Cremis. Rituel. La plupart des personnes rencontrées ont abordé leur rapport à l'alimentation en termes de gestes ritualisés. Parler de ces gestes qu'elles reproduisent chaque jour a permis d'entrer dans l'intimité de leur vie quotidienne. C'est personnel comme question. Participante de 84 ans. Un chercheur qui s'est intéressé au lien entre le bien-être et les routines affirme qu'en vieillissant, les personnes ressentent le besoin de poser des gestes qui ont un sens pour elles, prenant dans certains cas la forme d'une ritualisation. Un autre propose l'idée selon laquelle les gestes ritualisés constituent une résistance à la dureté de la vie, comme les personnes l'ont raconté, afin de faire face à la solitude, à la précarité économique ou encore l'absence de rôle social. Les propos des participants et participantes suggèrent que la dimension temporelle de l'alimentation s'incarne dans trois types de rituels. Soit les pratiques alimentaires exécutées seules, celles qui s'exécutent en contexte d'interaction sociale, et celles liées à des événements collectifs et des moments festifs autour de l'alimentation. De plus, alors que les écrits spécialisés présentent ces rituels séparément, les personnes en parlent d'une manière plus organique, laissant entrevoir leur coexistence. Les rituels qui se vivent en solitaire concernent tant l'achat que la préparation et la consommation des aliments. Par exemple, une dame confie que c'est le traditionnel « toujours chez nous ». En fait, cette participante de 69 ans, qui vit seule, décrit un quotidien alimentaire dans lequel elle cuisine à répétition des plats de son pays d'origine « chez nous ». Une autre dame de 67 ans indique qu'elle préfère sortir de la ville pour faire ses achats à Brossard, dans un commerce qu'elle avait coutume de fréquenter et qu'elle associe à un sentiment de liberté et de détente. J'y vais toutes les semaines, je prends le volant, puis je relaxe. La ritualisation de comportements alimentaires, même lorsqu'ils sont exécutés seuls, peut aussi être une manière de faire entrer le social dans un lieu dépourvu d'interactions immédiates. Les travaux d'un autre chercheur sont éclairants à ce sujet. Ils amènent à suggérer que cette ritualisation peut constituer pour certaines personnes une extension temporelle d'interactions passées en souvenir de gestes ayant été posés auparavant avec d'autres, maintenant disparus ou absentes dans l'immédiat. Par exemple, quelques personnes ont expliqué apprécier certains plats qu'elles avaient pour habitude de préparer et de consommer avec leurs anciens et anciennes partenaires de vie. Le second type de rituels alimentaires se rattache aux interactions sociales. Il est lié à la dimension relationnelle du bien-être, tout en mettant l'accent sur les codes et les règles qui encadrent les rapports sociaux autour du repas. Comme on l'a vu, aborder son rapport à l'alimentation est prétexte à parler de son rapport aux autres. Le partage de nourriture est ainsi, pour certaines personnes, au cœur du maintien des rapports familiaux ou d'amitié. À ce titre, une femme de 66 ans évoque qu'elle ne trouve pas le temps de voir du monde, ça fait que le prétexte, c'est le repas. Malgré ses difficultés à interagir avec des membres de son entourage, elle souligne son désir de garder vivantes ses relations qu'elle estime vitales et explique y parvenir grâce aux repas partagés au sein de l'organisme alternatif qu'elle fréquente. Selon elle, les manières de table facilitent les échanges entre convives et le contexte des repas partagés allège l'inconfort qu'elle ressent habituellement lors d'interactions sociales. Enfin, les comportements alimentaires peuvent renvoyer aux célébrations sacrées de la vie quotidienne et de l'identité collective. Une des personnes rencontrées aborde la représentation qu'elle se fait de son rapport à l'alimentation dans des termes qui vont au-delà de la simple routine. Pour cet homme de 66 ans, le repas est quelque chose de symbolique ou de spirituel. Manger, c'est un rituel, c'est un vrai rituel. Ces propos font écho aux réflexions d'un autre chercheur pour qui les rituels constituent l'expression sacrée de la communauté et un rappel pour les individus de leur appartenance au groupe. La participation à des rituels collectifs autour de l'alimentation, jardin, cuisine et repas collectifs, peut également représenter une occasion de dépasser son individualité en accomplissant quelque chose de permanent du fait qu'on participe à façonner la collectivité d'aujourd'hui et de demain. Vous écoutez « Faire partie du monde, favoriser le bien-être par les rituels alimentaires ». Un texte de François Régimbal, paru à l'automne 2022 dans la revue Cremie. Alternative. Comme suggéré précédemment, les organismes sélectionnés dans le cadre de ce projet sont considérés comme des alternatives qui proposent une rupture avec l'approche de la charité et, par la même occasion, avec la réduction identitaire. Plusieurs facteurs expliquant la fréquentation à ces organismes alternatifs ont été évoqués tant par les participants et participantes que par les intervenants et intervenantes, notamment sur les fronts du bien-être relationnel, matériel et temporel. Sur le premier front, plusieurs personnes ont mentionné fréquenter un organisme alternatif pour « casser la croûte » en compagnie d'autres personnes et, ainsi, briser l'isolement, rencontrer des gens, se raconter et écouter les autres se raconter. Comme le formule une personne interviewée, l'isolement, c'est très grave. Ainsi, l'organisation de repas collectifs et d'activités diverses ravive l'appétit de certains participants et participantes ayant gagné ou regagné un bien-être relationnel. Ces organismes alternatifs représentent la possibilité de retrouver quotidiennement sa gang, avec à la clé la possibilité de s'amuser. Selon certaines intervenantes rencontrées, les usagers et usagères formulent également le désir d'interagir avec des individus appartenant à divers groupes, notamment en termes d'âge et de classe sociale. Certains organismes développent donc des activités fondées sur la mixité sociale, qui est perçue comme une solution pertinente pour contrer la solitude subie. Du point de vue matériel, au-delà de la position de rupture adoptée par ces organismes quant aux pratiques de charité, ils permettent aux participants et participantes un accès à de bons repas, variés et peu coûteux. En d'autres termes, l'objectif n'est pas seulement de favoriser l'accès à des denrées alimentaires en quantité, mais aussi d'assurer leur qualité. Un exemple qui illustre bien cette préoccupation est l'organisation d'ateliers de cuisine collectifs durant lesquels les personnes partagent leurs compétences culinaires pour préparer des plats savoureux, de bonne qualité et à faible coût. Enfin, sur le front du bien-être temporel, la fréquentation d'organismes alternatifs en alimentation est aussi l'occasion pour plusieurs personnes d'orchestrer leur emploi du temps, comme l'explique une personne ayant vécu le passage à la retraite comme un deuil. À travers ce retour à des gestes répétés autour de l'alimentation, plusieurs personnes ont affirmé retrouver un sens à leur existence. Au-delà de tous ces motifs et facteurs, les personnes mentionnent fréquenter des organismes alternatifs parce qu'elles s'y sentent appréciées dans leur globalité et leur humanité. Bien que la nourriture soit au centre de leur participation, elles y viennent également pour faire des sorties, des activités, assumer des responsabilités, pour se sentir importantes, utiles, bref, être vues comme des humains. En d'autres termes, les personnes expliquent qu'elles choisissent de fréquenter ces organismes parce qu'on s'y soucie de leur bien-être global et non seulement de leur sécurité alimentaire. La thèse montre que fréquenter des organismes communautaires alternatifs en alimentation permet dans certaines circonstances aux participants et participantes d'être de nouveau des personnes à part entière au lieu de se voir réduites à des bouches à nourrir. En étant traitées dans leur globalité, les personnes disent ressentir un bien-être qu'on peut associer à une forme d'humanisation. Ce constat met en évidence notre capacité collective à développer des lieux participatifs offrant une place centrale à l'alimentation, dans lesquels les individus, en agissant ensemble, arrivent à dépasser leur propre individualité ainsi qu'à trouver, ou à retrouver, un sens à leur existence. Enfin, c'est notamment par ces rituels, particulièrement ceux qui renvoient à des célébrations collectives et dans lesquelles la personne est reconnue à part entière, qu'elle peut aspirer à faire partie du monde. C'était « Faire partie du monde, favoriser le bien-être par les rituels alimentaires », un texte de François Régimbal, paru à l'automne 2022 dans la revue Crémy.
Pourquoi subit-on des petits chocs électriques quand on touche à certains objets certains jours? Réponse de Québec Science à Pose ta colle, paru le 10 mai 2014 dans Québec Science. Les secousses désagréables que tu subis parfois en attrapant une poignée de porte ou en serrant la main d'un ami sont dues à ce qu'on appelle l'électricité statique. Cette électricité s'accumule régulièrement dans ton corps quand tu portes des vêtements en matière synthétique ou que tu marches sur la moquette. Lorsque tu te frottes à ces matières, des électrons qui appartenaient aux vêtements ou au tapis sont transférés vers la semelle de tes chaussures. Ton corps devient plus riche en électrons. On dit alors qu'il est chargé négativement. Pendant ce temps-là, la moquette ou le vêtement qui a cédé ses électrons se charge positivement. Ton corps demeure chargé électriquement jusqu'au moment où il trouve l'occasion de se décharger de ses électrons. Cette occasion peut être la rencontre avec un ami ou ton désir d'ouvrir une porte. Tu ressens un choc en touchant ces autres milieux. Cette petite décharge électrique correspond au passage d'électrons du milieu chargé négativement à celui chargé positivement. Tu as remarqué qu'en hiver, ces chocs électriques sont plus nombreux et intenses qu'en été. C'est que l'été, l'air est humide et l'électricité y circule plus facilement. Les décharges se produisent donc rapidement, même lorsqu'il y a très peu d'électrons accumulés. Ces décharges sont si subtiles que tu ne les sens pas. L'hiver, par contre, l'air sec est un meilleur isolant. Une grande quantité d'électrons doit s'accumuler pour franchir cette barrière, ce qui produit au final une décharge plus forte. Celle-là, tu la sens. C'était « Pourquoi subit-on des petits chocs électriques quand on touche à certains objets certains jours? » Réponse de Québec Science à « Pose ta colle », paru le 10 mai 2014 dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Dominique Desrosiers à la lecture, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.